Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
94.8 FM.
C'était pas prévu au programme. 16h30, 17h, bienveillance, respect, sourire. C'est tout ça l'esprit de Marc et Maggie.
Bonjour, vous êtes bien sûr, c'était pas prévu au programme sur Radio Shalom 94.8. 16h30, bonjour Marc.
Quelle entrée en matière, bonjour
Maggie.
Oui, Maggie,
oui, je me sers des
conseils de Marc Scalia.
Des conseils de Marc Scalia et d'autres animateurs de radio.
Au grand Marc, si tu nous entends.
Et
tu
voilà,
es avec nous.
Exactement. Comment vas-tu Marc, ça va?
Bah écoute, on a un invité aujourd'hui de Marc.
C'est le cas de le dire. Exactement. Bonjour docteur Jacques Oana.
Bonjour, bonjour.
Nous sommes ravis de vous recevoir. Franchement,
également
vraiment,
c'est un grand plaisir.
On remercie d'ailleurs
qui? Un grand plaisir pour moi.
On remercie qui?
Parce Caroline Marguerite.
Voilà, parce que c'est un...
C'est une affaire conclue.
Voilà, c'est une affaire conclue entre Jacques et Caroline. Donc merci Caroline de nous avoir conseillé d'inviter ton si tendre ami, parce que je crois que vous avez une belle complicité. Avant de commencer à discuter avec le docteur qui vient nous présenter aujourd'hui un ouvrage qui est magnifique, qui s'appelle La Diagonale du Corps, aux éditions du Cherche Midi. Et je vous assure, je dis un ouvrage parce que c'est même pas un ouvrage, je trouve que c'est une petite œuvre d'art. Je vais pas exagérer. Vous êtes d'accord avec moi, Jacques?
Je suis obligé de le reconnaître, mais tout le mérite en revient à la maison d'édition, les éditions du Cherche Midi, particulièrement professionnelles, qui ont vraiment insisté sur la qualité, et je dois dire que je suis ravi, je les ai accompagnés dans cette aventure.
Mais oui, on va dire pourquoi. En fait, je trouve, à la limite, je trouve ça presque logique. Comme vous êtes quand même un chirurgien esthétique de renom, vous ne pouviez que nous offrir un ouvrage esthétiquement très joli. Vous n'êtes pas d'accord?
C'est tout à fait logique.
Voilà. Alors avant de commencer, Marc, on avait envie de dire un petit mot, là, parce qu'on est tous un petit peu... Enfin non, on est tous derrière nos soldats, bah. qui aujourd'hui sont...
Bah, sont en mode opération, ça s'appelle exactement gardien des murs en Israël.
Voilà. Enfin,
des murs. Voilà, on a une grosse pensée pour eux. Ce qui se passe, je ne vais pas polémiquer, ça ne sert à rien. Les images suffisent elles-mêmes. On a reçu 200 roquettes sur la tête. On se défend, point barre. Voilà. On est en légitime défense.
On est d'accord.
Le reste, on laisse Bibi agir et l'armée est sale. Allez, maintenant on passe au docteur Jacques Oana, car je suis très content pour deux raisons.
Alors vas-y.
On va parler d'un livre que je ne connais pas. Mmh. Qui est magnifique.
Donc tu vas le découvrir avec moi.
C'est un Marocain, donc on glissera à une petite recette marocaine. Parce que moi j'aime manger, je suis obligé de parler de nourriture. Monsieur Oana ou Jacques, on va l'appeler Jacques.
On va l'appeler Jacques,
parce
oui.
qu'il est sympathique. Bah, et puis, alors vous ne le voyez pas parce que c'est une émission de radio. Mais je ne suis pas une femme, mais il a un sourire très très charmant et très coquin. Bon,
c'est
très malin.
Heureusement que ce n'est pas moi qui l'ai dit Jacques. Hein,
typiquement marocain.
Typiquement marocain. Il est maître d'être un peu ashkenaz, ce jeune homme.
Bon, en tout cas, les premières personnes, femmes ou hommes, qui téléphoneront aujourd'hui au 01 43 36 04 06, nous ferons un plaisir de leur offrir l'ouvrage du docteur Jacques Oana. Vraiment, on peut en offrir deux.
Davantage,
ah,
avec
bah
plaisir.
Aujourd'hui, c'est Hanouka. Hein, on va dire que c'est Hanouka. Donc
pour
voilà.
Pourim, peut-être.
Pourim, pour les cadeaux en général. On
fait, je ne sais pas.
Ouais, c'est Hanouka. On va dire Hanouka.
Et une Dafina, qu'est-ce qu'il fait la Dafina? Alors,
il y a toujours une Dafina.
Il y a toujours une Dafina, voilà, exactement. Donc en fait, vous êtes avec nous aujourd'hui parce que vous venez nous présenter donc, ce magnifique ouvrage. Je vais quand même juste rappeler que vous êtes chirurgien esthétique, plasticien, interne et chef de clinique des hôpitaux de Paris. C'est quand même pas rien.
Ouais, c'est du travail.
C'est du travail. Hein. C'est
combien,
du travail.
Alors, juste pour les auditeurs, combien d'années d'études, Jacques?
Quand on exerce avec plaisir, on ne compte pas le temps. Et je dois dire très honnêtement, à part les 6 premières années de médecine qui sont, on va dire, du bachotage, le reste, c'était tellement, tellement captivant que franchement, le temps passe vite et on en redemande.
C'est beau, hein?
Non, c'est la vérité. Vous dis 15 ans, admettons, ça fait beaucoup, mais c'est 15 ans de plaisir.
Bravo, ça c'est un fait plaisir.
Qu'est-ce qu'elle aurait aimé, ma mère, que je dise ça?
Non, mais quand vous progressez, quand vous apprenez tous les jours, quand vous êtes curieux, quand vous êtes exigeant, quand vous avez la chance, et ça c'est quelque chose que j'ai de particulier, d'avoir eu des maîtres exceptionnels, alors franchement, merci. Voilà.
C'est comme le mariage, quoi.
Pardon, juste un mot pour la situation conflictuelle dont vous parliez tout à l'heure, qui nous affecte énormément.
Oui.
Je voudrais simplement dire qu'on est tous concernés, qu'on souhaite tout ce qui est de mieux à Tahal. Et une issue favorable, voilà, le mieux possible.
Et ben vous avez bien raison.
Tout à fait, c'est vrai. Alors, le livre s'appelle « La diagonale du corps ». Avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, il y a une question que Marc et moi aimons poser à nos invités.
Jacques, on aimerait que vous vous décriviez en trois mots. Trois mots auxquels vous pensez directement en parlant de vous.
Je vais être le plus... Comment dire ? Je veux dire, voilà, j'ai la chance d'être quelqu'un de très heureux, de très équilibré. J'ai une femme magnifique. Trois enfants, quatre petits-enfants, un bon métier.
C'est un baroqueur parce qu'elle a dépassé les trembours.
C'est pas grave, c'est pas grave.
Alors je m'excuse tous les matins quand j'allume ma voiture et que je me dis, mais elle marche. Et que j'ouvre ma porte et qu'elle ouvre, je m'émerveille. Alors, voilà, j'ai une petite pensée pour la chance que j'ai.
Donc on va dire équilibré, heureux, chanceux.
Mériter quand même, hein, voilà, on va dire les choses comme elles sont.
Oui, bien sûr.
Si on dit équilibré, heureux et chanceux, ça vous va?
Oui, franchement, voilà.
D'accord, ouais. J'adore parce qu'en fait, on dirait qu'il découvre. En fait, il se dit, toi, finalement,
non,
c'est maintenant, je vais bien.
Je découvre tous les jours, toutes les minutes. Vous savez, il y a c'est des génial. Chansons en arabe qui disent j'ai trop de chance. Et ben, je me dis ça tous les jours.
Et ben, bravo, ben, c'est super. Ben, c'est très positif en tout cas et ça donne beaucoup de. Ça fait du bien. Ça fait
je
des...
sens qu'il va nous pousser la chansonnette tout à l'heure.
En arabe marocain, pardon.
En arabe
marocain.
D'accord.
On darija.
Alors, votre ouvrage, je rappelle, La Diagonale du Corps, donc aux éditions du Cherche Midi. Moi, j'ai regardé, j'ai vu des photos magnifiques. J'ai vu des titres de chapitres qui m'ont tout de suite interpellée. Il y a 10 chapitres. Et j'avais une petite question par rapport à ces 10 chapitres. J'en citerai 2 ou 3 tout à l'heure. Est-ce que ce sont les titres des chapitres qui vous sont venus d'abord ou le contenu de ce qu'il allait avoir dans ces chapitres? C'est une question un peu particulière.
Je comprends bien, mais si vous voulez, ce livre, effectivement, je l'ai conçu, je l'ai réalisé et j'en ai dessiné page par page. Première page, j'ai tout fait.
Bon, ouais.
J'ai tout fait avec l'accord et l'acceptation de la maison d'édition. Je vous remercie vraiment. Écrire un livre, c'est une chose, le construire, c'est autre chose. Hein. C'est une expérience très intéressante. Non, il y a 5 ans, quand j'ai commencé, je ne voulais pas écrire un livre.
Ouais.
J'ai écrit quelques pensées, quelques réflexions, quelques chapitres. Et puis, petit à petit, je voyais que les choses se passent. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un livre? Avant le Covid, j'ai beaucoup hésité. J'ai dit non, ce n'est pas intéressant, c'est très personnel. Et puis, la période de ces 6-8 semaines d'arrêt, je l'ai complètement repensé, restructuré. Et j'ai dit, bon, peut-être. Et puis j'ai eu la chance d'être accepté par la maison d'édition et l'aventure a commencé. Et puis je suis ravi parce que j'aime bien ce livre.
Mais je le conseille, je suis très contente que vous ayez décidé gentiment d'en offrir à nos auditeurs et à nos auditrices parce que c'est vraiment un joli livre qu'on met dans... Vous savez, on a des livres comme ça qu'on pose. Moi, j'ai des livres que je pose sur ma table. Vous savez, la table, celle
tout
qui est à côté.
Des livres décoratifs.
Voilà, décoratif, on le regarde de temps en temps, on tourne les pages, on apprend des choses à chaque fois qu'on va regarder quelque chose. Tu as déjà lu quelque chose qui t'a interpellé, Marc, c'est ça?
Nous ne sommes pas juifs pour rien. Il y a un point commun qui me rappelle toujours ce qu'on mange et la douceur de l'État d'Israël où coule le lait et le miel.
Oui.
À mes petits-enfants, le miel de ma vie.
Ouais, c'est trop joli.
Il remercie son assistant.
Mais vous pouvez lire aussi la dédicace pour ma femme.
Non, mais j'ai vu. Non, mais je trouvais ça.
Elle le mérite largement.
Ouais, non, mais je trouvais le mot miel tellement.
Et si vous voulez bien, dans les clins d'œil que je me fais dans le livre, la photo qui est en face ressemble étrangement à ma femme.
Ah!
Bien sûr.
Ah, ça, c'est un petit scoop que vous nous donnez alors.
Voilà.
Ah, ben, elle est jolie, votre femme. Hein, parce que c'est
oui,
elle est
très, très jolie. Mais je vous ai dit que j'ai de la chance.
Oui, c'est vrai.
Jacques, je trouve. Alors, je vous assure que c'est vrai. Je trouve qu'il a une tronche, entre guillemets, d'acteur américain qui a joué un peu à la Andy Garcia.
Non,
qui a joué dans
Nicholson.
Le
Parrain. On me l'a toujours dit.
En plus
beau En plus beau. Parce que Jacques Nicholson, il a un côté ouf. Il a un côté fou.
Et puis, je trouve qu'il a trop de cheveux.
Ouais. C'est pas moi qui veux dire le contraire.
Bon. Alors, je sais que vous êtes aussi un passionné donc, d'art contemporain, on le voit à travers le livre. Comment l'art contemporain en fait, a inspiré votre choix peut-être aussi? Parce que je crois que vous vous intéressez à l'art contemporain depuis assez jeune quand même. Non, pas spécialement.
Honnêtement, je suis un autodidacte de l'art, on va dire.
Oui. C'est un rapport avec le choix de la médecine esthétique que vous avez choisi?
Non, pas du tout. Alors, l'histoire est intéressante, mais concernant l'art, si vous voulez, je l'ai découvert par hasard.
Oui.
Parce que j'aime flâner. Alors, les puces, je connaissais par cœur dans les années 80-85. Je connaissais toutes les boutiques. Non, Caroline n'y était pas encore.
N'y était pas encore, d'accord.
Mais il y avait tes frères.
Oui, mais ils vendaient des jeans, c'est pas pareil.
Mais c'est intéressant aussi.
Oui.
Et donc, on faisait toutes les boutiques, on achetait les premières sculptures, les premiers tableaux avec ma femme, on a découvert l'art ensemble. Je me suis abonné à la Gazette de Drouot, qui est pour moi la revue exceptionnelle et incontournable. Et puis, je me suis formé comme ça, et puis voilà, la sensibilité.
Autodidacte de l'art aussi. Alors.
Oui, et puis la connaissance de certains artistes qui m'ont ouvert les portes et qui m'ont initié. Pour revenir à la chirurgie esthétique, alors c'est très simple.
Oui.
J'ai fait de la chirurgie réparatrice à un moment où la chirurgie esthétique n'existait pas.
D'accord.
C'est un choix que j'ai fait d'exclusion. Je ne voulais pas faire comme les autres. Mm-hmm. Je ne voulais pas faire digestif, je ne voulais pas faire réparatrice, je ne voulais pas faire digestif, orthopédie, gynéco. Alors j'ai dit, je vais faire de la réparatrice. Personne ne connaissait, honnêtement, moi non plus.
Oui.
Et puis, par hasard,
ouais.
J'ai connu les plus grands. J'ai connu les plus grands, ceux qui ont tout inventé. Voilà, je suis né dedans, j'ai eu de la chance. J'étais dans la locomotive. Je l'ai prise.
Vous avez bien fait de monter dedans.
C'est la chance.
C'est la chance. Mm-hmm. On fait une petite page.
Avant la page, je voulais juste dire, vous avez quand même un point commun, parce que Maggie ne le dira pas, donc je le dirai pour elle. Mm-hmm. C'est une passionnée d'art aussi.
Oui. Mm-hmm.
Et elle a fait des ventes caritatives pour Arcurial.
Magnifique, j'en ai acheté quelques-unes.
Je sais, parce que je pense que vous avez dû venir à une des ventes qu'on avait organisées avec l'Appel Unifié Juif de France.
Oui,
je suis
absolument.
Sûr que vous étiez
J'ai
là.
J'ai une de mes sœurs qui est artiste et qui expose justement pour l'Appel Unifié Juif de France. Et je me fais un devoir d'acheter systématiquement ses œuvres.
Bravo.
Qui sont très belles au demeurant.
Le titre de votre sœur artiste, c'est bien de dire aussi.
Annie, d'accord. Elle est entre Tel Aviv et Paris, ça va.
Super, d'accord, ok. Alors on écoute, on fait une petite page de pub, rapide, parce que c'est intéressant tout ce qu'on a à dire avec le docteur.
C'était pas prévu au programme. 16h30, 17h, bienveillance, respect, sourire, c'est tout ça l'esprit de Marc et Maggie.
Vous êtes toujours sur Radio Shalom 94.8. C'était pas prévu au programme et nous avons comme invité le docteur Jacques Ohana.
Et quel invité ?
Ravis, un super invité.
Aussi intéressant qu'en off.
C'est vrai. On est.
Merci.
Non, mais en fait, c'est ce que je vous disais off tout à l'heure. On a la chance de pouvoir inviter qui on a envie. Donc on se fait plaisir. Donc on va
le
pas recevoir des gens. On va pas recevoir des gens qu'on n'a pas envie de recevoir. Ce serait trop dommage.
Son livre est magique. Il y a tellement de belles phrases, mais alors. Bon, beaucoup de gens qui aiment les Breslev et Rabbi Nachman, en l'occurrence ta fille, connaissent cette phrase, mais il faut quand même que je la dise, je la cite. Ne montre pas son chemin à celui qui le cherche, tu l'empêcherais de s'égarer.
Ouais. Ouais, c'est une phrase que j'aime beaucoup, je l'avais lue à une conférence de Marc-Alain Wacknin il y a peut-être une vingtaine d'années. Mm-hmm. Je pense que le cheminement est plus important que l'objectif.
Tout à
fait. On apprend plus dans le chemin qu'une fois atteint. Une fois atteint, c'est bon, le but est atteint.
Ouais.
Et des fois, ne pas atteindre le but, c'est encore plus important que l'atteindre. Bon, voilà. Il y a un petit peu de.
Il remercie un copain philosophique. Philosophe, pardon.
Dominique Paquet, qui est une philosophe, dramaturge, écrivain, une femme exceptionnelle, qui a eu la gentillesse de relire mon livre, de le peigner, comme elle le disait. Et je la remercie, effectivement, la remercier, c'est le minimum des choses.
Alors, comme je disais au début de l'émission, votre ouvrage, en fait, est découpé en 10 parties, 10 chapitres, avec des titres de chapitres, moi, qui m'ont complètement interpellée, parce que je trouve que, en fait, tout est dit dans le titre et on comprend tout de suite là où vous voulez aller. Il y en a un qui m'a interpellée, parce que j'ai beaucoup aimé, l'art et la manière, et EST.
Oui,
alors, allez, développez un petit peu, parce que je trouve ça très joli.
Il y a ces questions permanentes, est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est un artiste, est-ce que je suis un artiste, est-ce que je suis un artisan, etc. Moi, je pense que tout être à sa manière est un artiste. Ce qui compte, ce n'est pas la fonction, c'est la façon de le faire. On revient à la phrase de Nachman.
Voilà.
C'est la façon de le faire. Donc, si vous voulez, vous pouvez tout faire, de la cuisine, de l'ébénisterie, etc. La façon que vous avez de le faire peut vous rendre un artiste. Ou pas. Vous pouvez peindre et être un mauvais peintre, ben vous n'êtes pas un artiste, etc. Donc, l'art et la manière, ça veut dire que la façon qu'on a de le faire est plus importante que ce qu'on fait lui-même. On revient à la phrase de tout à l'heure. Maintenant, il y a une autre phrase qui est importante dans mon livre.
Oui.
C'est l'art et la matière, EST. Mais ça, c'est plus chirurgical. Ça veut dire qu'un chirurgien a ceci de particulier par rapport à l'art, à l'artiste, c'est qu'il agit sur une matière vivante. Et la matière vivante, elle interagit dans le résultat. Ça veut dire aussi bon, aussi professionnel que soit le chirurgien, il travaille avec une matière qui est un peu indépendante et qui peut lui échapper. Et donc, je dis que l'art est la matière, ça veut dire qu'il faut compter aussi avec la matière, C'est-à-dire qu'on ne verra jamais une sculpture, demander à son sculpteur mais pourquoi elle l'a sculpté comme ça et pourquoi ci et pourquoi ça.
Voilà.
Moi, je suis sûr que le penseur de Rodin, par exemple, aurait préféré être un personnage de Chagall.
Voilà. Oui, peut-être.
Peut-être. Moi, je lui ai parlé à l'oreille, c'est ce qu'il m'a dit.
C'est ce qu'il vous a dit, vous êtes penché sur lui. Il y a un autre chapitre qui s'appelle « Envisager et dévisager ».
Oui, c'est un très beau titre.
J'aime beaucoup. Et en fait, finalement, le visage, c'est la première image en fait, qu'on présente à une autre personne. Quand on est avec quelqu'un, c'est la première chose qu'il voit, c'est le visage.
Oui, j'hésitais avec un autre titre qui s'appelle « Faire face ». Faire visage, ouais. Mais le titre est déjà choisi par Bernard Duvauchel, qui est celui qui a fait la première greffe de la face au monde, ouais. Quelqu'un que j'ai connu. D'ailleurs, tous ceux qui sont dans ce livre, je les connais intimement et personnellement, c'est un livre très personnel.
Ouais.
De même que tous les tableaux, je les connais parfaitement aussi. Mm-hmm. Et donc, envisager et dévisager, j'ai trouvé ça effectivement un beau titre.
C'est un beau titre. Et du coup, vous, comment vous envisagez les visages du futur ? Avec tout ce qu'on voit, toutes les dérives, parce que j'appelle ça un peu des dérives, moi, tout ce qu'on voit parfois. Je suis des fois choquée par des visages de femmes qui, pour moi, ne sont même plus des visages, parce qu'elles elles exagèrent, elles poussent à chaque fois plus loin dans la recherche de la perfection, je trouve. Donc, j'appelle ça
elle
un peu la dérive.
Elle pousse à son paroxysme.
Et comment vous voyez
il y a deux aspects dans votre question.
Oui.
Les visages caricaturaux, qui sont la résultante de techniques obsolètes.
D'accord.
Ou on va dire, d'obsessions narcissiques.
Oui.
Ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la chirurgie esthétique.
D'accord.
On va dire, c'est des accidents qui ont plus en rapport avec la patiente elle-même et sa demande addictive ou avec le praticien qui est pas subtil non plus. Juste, je vous cite une phrase. On entend l'arbre tomber, on n'entend pas la forêt pousser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous voyez un cas qui vous impressionne, vous dites, non. La majorité, l'énorme majorité de la chirurgie esthétique, c'est naturel, c'est efficace, c'est durable, les patientes sont contentes, etc. Alors, je veux bien qu'on parle de ces cas-là, mais ils ne sont pas représentatifs. C'est comme si vous dites, moi, je ne prends pas l'avion, il n'y a que des accidents.
Oui,
ah non, il n'y a pas des accidents.
Ouais,
il y a un accident une fois, voilà. Voilà, c'est un petit peu ce que... Alors maintenant, par rapport au visage du futur, ce n'est pas ça le visage du futur. Ça, c'est le visage trafiqué et mal trafiqué.
Mm-hmm.
Non, les interrogations qu'on peut se poser sont en rapport avec la médecine régénérative, les cellules souches, les implants, les électrostimulations, les nanotechnologies, etc., ou avec la médecine régénérative, ou avec le transhumanisme qui va changer la nature humaine, qui va télécharger notre cerveau, qui va nous dupliquer comme des clones sur des ordinateurs, etc. Ben, on est à la croisée des chemins, c'est extrêmement dangereux, ben, l'avenir dira. Hein.
Ouais, moi je crois que ça va pousser jusque-là. C'est pour ça que j'imaginais l'esthétisme de demain, l'esthétisme du futur, c'est effectivement, je suis sûre, des choses avec du clonage,
Écoutez,
ça fait peur quand
même. À un moment,
hein.
On disait la main est le prolongement du cerveau.
Oui.
Aujourd'hui, c'est le smartphone qui est le prolongement de la main. Alors bon, c'est qu'un début. Alors vous voyez, voilà.
C'est vrai.
Non, moi, la seule chose qui me dérange, c'est en fait, normalement, la chirurgie est faite pour réparer ou pour améliorer une partie du corps, notamment du visage, qu'on n'aime pas. En règle générale, sans être un grand spécialiste, mais de ce que je vois autour de moi.
Oui.
Alors, comme l'a dit Jacques, il y a de tout. Des fois, c'est super bien fait. Mais moi, ce qui me dérange, c'est quand ça se voit. Et quand ça se voit, le problème, c'est que ça se voit encore plus que si elle n'avait rien fait. Tu vois, on a eu cette réflexion quand on a regardé une émission la dernière fois. On a vu une actrice dont je tairai le nom.
Oui.
Elle s'est faite soit du Botox, soit de la chirurgie. J'en sais rien, je ne suis pas spécialiste, mais ça se voyait. Et moi, ce qui me dérange, c'est quand ça se voit. Je ne comprends pas, en fait, toutes ces femmes. Bah, c'était la plus connue, Nicole Kidman, que tout le monde a vu. Pourquoi elles en viennent à ce niveau-là? Est-ce que c'est de l'obsession? C'est quoi? Parce que ça se voit tellement que ça devient moche, alors qu'à la base, c'est fait pour rendre jolie, tout simplement.
Ouais. Alors d'abord, il faut savoir que toute chirurgie est réparatrice.
Ouais.
L'orthopédie, enlever une vésicule, c'est de la réparation. La chirurgie esthétique, elle est très particulière. Elle se pose le problème de la légitimité. A-t-on le droit de toucher un organe sain qui n'a rien demandé à personne, au motif simplement que esthétiquement, il pourrait poser un problème. Ceci étant dit, maintenant, non, si c'est rentré dans les mœurs, ça correspond à un besoin réel. Un organe sain, si esthétiquement il n'est pas convenable, il a des répercussions d'ordre psychologique qui peuvent avoir d'autres répercussions importantes sur le destin des gens. C'est pour ça que le sous-titre du livre s'appelle « L'anatomie, c'est le destin ». L'anatomie, c'est une phrase de Freud. Anatomie et le destin, ça veut dire que comme on est, on vit. Voilà.
Oui.
Bon, maintenant, ça a changé parce que la chirurgie a bousculé ça. Bon, je ne veux pas faire l'apologie de la chirurgie, mais maintenant, après Nicole Kidman, je m'excuse, c'est une victime.
Ah, d'accord.
Mais oui, c'est une victime parce que ces gens qui sont accros à l'image, accros à leur clignement des yeux, etc., ils perdent.
Ils
je
ne
parle pas que d'elle, je dis
oui,
en
oui.
général.
Non,
c'est moi qui
ai hésité
parce que
oui.
ça soit tellement.
Admettons, pas plus qu'une autre, peut-être, mais bon. Mais je veux dire, ces gens sont des victimes, hein. Ils sont addicts, ils sont accrochés à ça, ils ont besoin de ça pour garder la caméra, pour garder le micro.
Ouais.
Ils ont perdu tout.
Toute expression
tout contrôle, tout esprit
d'accord.
critique.
Oui, je comprends.
Alors bon, bah, c'est pas une référence. Hein.
Non, c'était parce que je connais des gens qui ont eu accès à la chirurgie, soit parce qu'ils avaient un nez qui les dérangeait, parce qu'ils avaient vraiment pas un bon nez, et ça rejoint ce que vous dites. C'est-à-dire qu'ils étaient super contents après parce que ça a changé leur visage en bien, ils étaient heureux et psychologiquement ça leur a fait du bien. Donc là, comme je dis, c'est hyper positif. Je connais d'autres personnes qui ont eu de la chirurgie parce qu'ils ont eu un accident. Donc là, c'est encore plus magique.
Ouais.
C'est juste tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà. Mais non, mais j'avais vu ça et je me dis, enfin, moi, de toute façon.
Non, la chirurgie esthétique a fait vraiment beaucoup, beaucoup de progrès. Quand je l'ai connue, elle était incomplète et imparfaite. Moi, j'ai connu les pionniers, ceux qui ont exploré des chemins impossibles.
Ouais.
Et puis nous, on a été la génération de la transmission. Et puis, on a eu la chance, effectivement, de connaître des vrais progrès. Je vais raconter une anecdote qui n'est pas banale. Parce que vous savez, on a beau opérer tous les jours, ce qui est mon cas, et opérer, je suis obligé de le dire très correctement, avec de bons résultats dans la majorité des cas, sauf les aléas de la matière dont on parlait tout à l'heure.
Ouais.
Et mon vaisseau à l'idée est la chose suivante. Je me souviens d'une... Bon, je consulte, je vois beaucoup de patientes, bonjour, les patientes sont des copines ou copains, des gens que je connais depuis longtemps, etc. Et je me souviens d'une patiente, je viens la voir, elle me dit, ah, oh, docteur, je suis content. Une jolie jeune femme, une belle poitrine, voilà, elle voit. Et puis elle me dit, oh, vous ne pouvez pas savoir, mais personne ne s'en aperçoit. Alors bon, gentiment, mon sourire était joli, je touche ses seins pour palper leur souplesse, et je dis, oh, vous avez raison, c'est très naturel. Elle éclate de rire, elle me dit, mais docteur, c'est de mon nez que je parle, vous m'avez opéré il y a 3 ans.
Oh.
Voilà. Ça pour moi, c'est le plus beau compliment que je puisse imaginer.
Bah,
non, attendez, pourquoi ? Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de la technique, moi je suis qu'un transmetteur. La technique a tellement fait de progrès que moi, je ne sais pas si j'ai opéré cette patiente, bon, j'en opère beaucoup.
Oui.
Et que si j'avais vu son nez fait par quelqu'un d'autre, je crois que j'aurais été jaloux. Ça, c'est le meilleur critère. Non, le meilleur critère, c'est que la technique a fait tellement de progrès que maintenant, elle est née de Jules et de Claude François, c'est la préhistoire. Excusez-moi. Ceci était dit, tout peut arriver. Et nombre de chirurgiens ne possèdent pas la technologie, la technicité, non pas la curiosité, l'exigence, l'intransigeance qui leur permet d'aller au bout de la chose.
Ouais.
Mais ça, c'est valable partout, l'art et la matière.
Bravo. Alors moi, j'ai une dernière question parce qu'il nous reste 2 minutes. Et celle-là, elle est pour moi, je pense que vous allez répondre, parce que le choix du titre de votre livre, La Diagonale du Corps.
Non,
c'est quoi la diagonale? La diagonale va d'où à où?
Oui,
la diagonale.
C'est très intéressant. En vérité, il y avait les incertitudes des corps, les errances du corps. Après, je voulais appeler ça rouge à lèvres et talons aiguilles. Par exemple, j'aurais bien aimé ce titre, mais ça faisait un peu trop féminin.
Ouais.
Quoique 90% de la clientèle
est féminine.
Non, la diagonale du corps, c'est ce chemin qui n'est ni la ligne droite, ni la verticale, ni l'horizontale, et qui, quelque part, c'est un petit peu l'errance qui va au bout. Et puis, on ne peut pas dire, ça fait référence au film de La Diagonale du Fou.
C'est
le corps,
dire.
Il est un petit peu fou, il est un petit peu perdu, il cherche sa voie. Surtout avec la perspective que je présente dans le livre, historique et géographique, où effectivement, en passant par la honte de l'Église, avec l'ouverture de la civilisation grecque, etc., c'est intéressant de voir un petit peu ce chemin.
Ok, bah écoutez, on est ravis d'avoir reçu le docteur Jacques
Ohana
avec son nouvel ouvrage. Je dis nouvelle parce qu'il y en avait eu un avant. Oui,
non, l'autre était anecdotique.
Moi, j'aimerais juste conclure avec une phrase de Platon qu'il a mis en ouverture de son livre.
Oui.
Tout ce que l'homme apprend est déjà en lui. Ça veut tout dire.
Ça veut tout dire.
Et c'est pas pour rien que c'est la première et que celle de Rabbi Nachman est la dernière.
C'est Bereshit.
C'est Bereshit. Elle se parle.
Bravo. En tout cas, voilà, je vous le conseille. C'est La Diagonale du Corps aux éditions du Cherche Midi. Vous revenez quand vous voulez.
Merci.
C'est super intéressant.
C'était hyper intéressant.
Je suis un auditeur très... très, très régulier. J'aime beaucoup toutes les émissions, je ne dis pas ça comme ça.
Ouais.
Mais autant E24 News et Radio J, Radio Shalom sont des radios que j'écoute toujours. Bon, les informations surtout. Et
mais
puis
oui,
les animations
et ben voilà, maintenant vous allez nous écouter un petit peu plus. Et
il faut que j'arrête ma consultation à ce moment-là. J'ai essayé.
Bon, on l'invitera au concert alors.
Voilà, exactement. Merci Marc, merci Arnaud. Et puis tu vas évidemment dire à notre
aujourd'hui, nous avons Jacques Ohana. Nous avons reçu Jacques Ohana. Donc, après Jacques Ohana, il y a le flash, le plus grand flash international, le plus écouté de France. Le flash de monsieur, cher Gandus. Heureusement, il y a Gandus. Gandus.
Bravo.